Message à caractère informatique.
Message à caractère informatique.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 60e épisode, épisode numéro 59. Nous sommes toujours le 19 novembre 2021 et aujourd'hui je suis toujours accompagné de gens merveilleux, toujours merveilleux, tels que Pierre Zemb. Bonjour Pierre Zemb, qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie ?
Bonjour, je suis toujours développeur chez Clevercloud et je galère toujours contre mon query planner.
Ça n'a pas changé depuis une heure pour nous. Je suis également toujours accompagné de Florentin Dubois. Florentin Dubois, qui êtes-vous ?
Bonjour, je suis toujours software engineer chez Clever également, à faire des paires dans ce zoo, et je voudrais juste faire une petite remarque, c'est qu'on est à l'épisode 61, on est au 61e épisode, épisode numéro 60.
Oui,
du coup. Ah non, mince.
Bah, oui, et du coup, on galère plein dans les épisodes chez Clever, c'est tellement bordel.
Mais non, c'était bon, on était au 59e épisode 58.
Oui, l'épisode
d'avant. Oh, t'es en train de tout me casser. Oh, j'en sais rien, moi, bref. On s'y perd. Ah, c'est les informaticiens qui ont décidé de... Bon, si on libérait un petit peu notre invité qui va avoir mal au bras à force de se cacher. Donc, notre invité qui a toujours pas claqué la porte entre deux épisodes, Mathieu Ancelin. Bonjour, Mathieu.
Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Mathieu Ancelin. Je suis développeur chez Serly, une petite boîte de services vers Poitiers. Et voilà.
Très bien. Si vous voulez écouter la petite interview de tout ce que fait exactement Mathieu, vous pouvez écouter l'épisode précédent, donc potentiellement le numéro 58, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, numéro 58 du coup, le 59e épisode, parce que là on est au 60e. Bref, donc passons tout de suite à un lien société à nouveau, donc PlanetScale qui vient de qui est Generally Available. Est-ce que tu nous expliques ce que ça veut dire, Pierre ?
Oui, alors PlanetScale, c'est une boîte assez récente qui propose du MySQL managé. C'est notamment une boîte qui a été montée par les mainteneurs d'un tool open source qui s'appelle Vitesse, qui est un système de clustering qu'on peut mettre par-dessus du MySQL. Donc c'était assez connu parce que c'était le derrière YouTube. Donc ça a été open sourcé. Et PlanetScale est devenu une boîte, donc c'est la plupart des mainteneurs de Vitesse sont chez PlanetScale et ils font un produit data. Et donc maintenant ils sont generally available, donc ils sont plus en bêta. Et ils en ont profité pour annoncer une levée de fonds de 50 millions en série C pour faire du. Ils appellent ça de la base de données serverless. Donc, globalement, les utilisateurs, ils créent des tables, ils insèrent des lignes et ils n'ont pas de problème de scalabilité et ils ne voient pas la machine.
C'est bon. Du MySQL as a service.
Du MySQL. Du MySQL as.
Du MySQL as.
Du MySQL as, voilà, exactement.
Très bien. Vous avez déjà joué un peu avec, vous ?
Moi, non. Je pensais vraiment que c'était développé par Vitesse, c'était développé par YouTube. Je ne sais pas pourquoi je m'étais mis ça en tête.
Le free tier de PlanetScale est impressionnant, je me souviens. Ouais. Pricing, genre free, tu as droit à 10 gigas de stockage par mois, 100 millions de 100 millions de reads et 10 millions de writes.
Okay.
Et 1000 connexions. En free tier, quoi. Donc, c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin d'argent. Ouais, le free tier est assez généreux. Et après, les packages commencent à 29 dollars par mois par database.
Okay. Avec, dedans, c'est quand même pas dégueu. Hein.
Non, c'est pas dégueu.
J'avoue que c'est assez peu cher.
Et ils ont pas mal avancé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils annoncent beaucoup les fonctionnalités de vitesse. Donc, notamment, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire un peu comme si tu faisais une branche quand tu fais un changement de schéma. C'est-à-dire que tu lances un changement de schéma, il se prépare et tu dis, voilà, je clique et je l'applique en prod, comme si tu faisais un merge sur Git. En fait, ils ont la même logique de UI quand tu fais des pull requests, mais dans le monde de la base de données avec des changements de schéma.
Ok, ah, c'est pas mal. Ce qui veut dire que tu peux revenir en arrière aussi, j'imagine, si tu t'es...
Exactement.
Si tu t'es planté,
c'est pas mal. C'est pour ça qu'ils parlent de branches, en fait, par base de données dans les plans.
C'est fou. Okay.
Et ça utilise des fonctionnalités de vitesse. En fait, ils ont revrappé beaucoup de...
Bon, c'est vitesse as a service, quoi.
C'est du vitesse as a service, exactement.
C'est VAS. c'est un VAS sujet. Non. Non. très bien. Donc, un produit à tester, quand même.
C'est ça.
Voilà, bon, après... toujours se poser la question de sur quel serveur on stocke nos données. Mais techniquement, ça a l'air quand même assez sympa.
L'expérience a l'air cool.
Ils ont beaucoup bossé l'expérience développeur, l'expérience opérationnelle aussi. Ils ont débauché quasiment tout le monde qui avait chez GitHub qui bossait sur Vitesse. Enfin...
D'accord.
Okay. Ils ont débauché énormément de monde qui était chez GitHub.
Pour bosser dessus.
Et Google, d'ailleurs.
Et donc, on pourrait se demander si ça n'a pas déclenché de conflit, ce qui nous amène au lien suivant. Toujours Pierre, tu voulais parler de la guerre entre Databricks et Snowflake.
Oui, c'est une série d'articles de blog posts que chaque entreprise a sorti où ils se tirent un peu dans les pattes chacun. Alors, pour ceux qui connaissent pas, Databricks et Snowflake, ce sont des plateformes data, d'analytics en SaaS. Donc, globalement, vous poussez la donnée dans du Databricks ou du Snowflake et ça vous permet de faire tourner de l'analytique à gros volume. Donc, on parle de faire du SQL sur des terras de données. En quelques secondes. Et donc c'est Databricks qui a lancé les hostilités en sortant un blog post en disant qu'ils ont battu le record de performance sur un benchmark qui s'appelle du TPC. Et donc ils ont dit que sur le TPC, donc c'est le, il y en a plusieurs. Alors c'est le TPCDS, c'est 99 requêtes sur 100 téra de données. Ils l'ont fait en 3 secondes. Ce qui est quasiment 3 fois plus rapide que la concurrence. Et là, ils mettent un énorme Snowflake, tu vois. Et entre 7 et 12 fois moins cher suivant les instances que tu prends. Donc, ils tirent littéralement,
Sur la concurrence.
À balles réelles.
Ils ont sorti un autre truc, et c'est qu'ils ont enlevé la clause de Witt de leur produit. La clause de Witt, en fait, c'est un truc qui vient d'Oracle qui empêche de faire des benchmarks. Et donc, du coup, maintenant, tu as le droit de faire des benchmarks de Databricks et de les comparer avec d'autres personnes. Ça, c'est un truc que tu as dans les cloud providers. Donc, ils ont dit, on a benché et vous pouvez nous bencher et vérifier, quoi. Donc ça, c'était le premier blog post. Après, Snowflake a répondu, ils ont dit, bon, alors du coup, c'était pas vraiment ça. Le prix, c'est pas vraiment ça. Et après, ils ont dit, bah voilà, nous, ça tourne en 4 secondes et on vous invite à venir tester. Donc, vous vous inscrivez et vous pouvez vérifier nos résultats. Donc, ce qui est une réponse plutôt correcte, tu vois, où on te dit, bah voilà, venez essayer, venez valider le résultat. Troisième blog post et on en termine là, c'est Databricks qui du coup salue avec toutes les formes de politesse qu'ils se sont trompés dans le blog post, etc. Et ils disent que oui, alors du coup si on prend le tunnel annoncé dans le blog post, donc en fait tu crées ton compte, tu utilises le dataset fourni par Snowflake, tu obtiens les mêmes temps, mais par contre si tu charges à la main le vrai benchmark venant de l'extérieur, donc tu prends les données, tu les insères toi-même, t'as pas du tout le même temps. Et donc en fait, ils expliquent que tout l'intérêt du TPC, c'est d'avoir un benchmark qui est auditable et de et d'avoir une vraie, enfin un vrai élément de comparaison. Donc le fait de réimporter, enfin d'exposer un benchmark, mais en le tweakant un peu pour que ça aille plus vite, c'est à la limite du truc. Voilà, donc ça se tire dans les pattes. Je pense qu'il y aura un quatrième article. On verra bien.
Faut suivre. On peut acheter du popcorn.
On peut acheter du popcorn.
Tout ce qu'on peut retenir pour le moment, c'est qu'ils ont enlevé la clause des 8 chez Snowflake et Databricks.
Oui, les deux ont enlevé, ouais.
Comme quoi, ça aura servi à quelque chose. Juste pour information, je regardais pendant que tu parlais, TPC, c'est Transaction Processing Performance Council.
Oui.
Il n'y a qu'un seul P dans le truc. Donc, oui. C'est une organisation non-profit, comme ils disent, qui produit des benchmarks. C'est ça, hein.
C'est ça, exactement. En fait, dans les années 80, t'avais toutes les boîtes de bases de données, en fait, qui sortaient des benchmarks en disant, oui, moi, je suis meilleur, moi, je suis machin, moi, je suis truc. Et en fait, il y avait aucun élément de comparaison et t'avais des gens qui sortaient des benchmarks sans faire des tests. Et donc, c'était vraiment le Far West. Et donc, le TPC, ils ont dit, on va arrêter, on va donner un cadre. Et donc, on va te fournir des modèles de benchmark en disant bah voilà les types de requêtes, voilà le type de données, voilà la volumétrie et toute la chaîne doit être auditable pour pouvoir se dire bah voilà est-ce que c'est le query planner qui prend du temps, est-ce que c'est l'exécution, et ils ont sorti des benchmarks pour plein de trucs. Donc t'as le TPCDS, donc c'est pour vraiment les data lakes,
mais t'en as d'autres. Decision support, ouais, donc c'est ça. En fait, c'est 99 queries avec différentes complexités, etc., des
agrégations,
etc., qui permettent de tester tout un range de fonctionnalités, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Et donc le TPCDS, je crois que c'est pour les data lakes. Et après t'as des TPC aussi pour les bases de données un peu plus classiques, si tu veux juste faire des usages web, t'as des usages plus data, enfin t'as vraiment plein de benchmarks pour ça.
Ok, voilà, c'est intéressant, je connaissais pas du tout, donc je découvre
Il faut passer par un tiers pour faire les tests.
Non, alors tu peux soumettre tes résultats sur le site TPC. Je sais pas trop comment ça marche.
Alors le site TPC qui est link dans le premier article de
Databricks.
Déjà, il me dit qu'il est pas disponible en HTTPS et ensuite il hang. Alors j'accepte de passer en HTTP.
Ah.
Bon, donc voilà.
On peut en conclure.
Il a peut-être pas apprécié le dernier benchmark.
Je sais pas.
Très bien. Là, je n'ai vraiment aucune idée.
Transition.
On peut parler de performance. Tu parlais de benchmark qui avait un certain âge. Il y a autre chose qui a un certain âge, notamment HAProxy.
Et du son premier nom, Zprox.
Zprox, wow.
Wow. Ouais, j'ai découvert ça aussi, j'étais pas outré, mais j'étais. J'ai toujours connu HAProxy, quoi.
C'est ça.
Et du coup, ça m'a fait bizarre. En fait, le lien, du coup, dont on parle, c'est un billet de blog post fait par Willy Tarot, qui est un des founders d'HAProxy, de Zprox, du coup, qui fête les 20 ans de l'open source de HAProxy. Et du coup, qui retrace du coup l'histoire et les décisions qu'ils ont prises depuis. Et du coup, globalement, vous aurez dans le résumé de l'épisode les différents points sur la timeline de HAProxy. Et ce qui est cool à savoir, c'est qu'au départ, HAProxy c'était pas du tout prévu pour être un load balancer. C'était plutôt un outil de test pour pouvoir jauger les applications, voir si elles étaient encaisser la charge sur des clients en 28 kilobits
par seconde.
C'est important de le préciser. Alors qu'aujourd'hui, on rappelle, les HAProxy, ça tient largement des trafics beaucoup plus gros.
Bon, j'ai bien eu les gigabits, hein.
Ouais. Et du coup, voilà, donc ça c'était en 1999. Ensuite, il s'est passé en 2000. En fait, ils se sont dit qu'ils rajouteraient bien une feature qui est de pouvoir réécrire les URL basées sur une regex. Et de là est parti le fait que justement, ils allaient introduire des nouveaux mots-clés tels que listen et server. Et de là est né le l'aventure à chat proxy quelque part, j'ai envie de dire. Et du coup, il repasse sur les 20 dernières années, notamment quelques features intéressantes qui sont arrivées, comme le support PV6 en 2003. Les premiers checks, L-check en 2002. Et surtout, moi, ce qui m'a intéressé plus récemment, c'était HAProxy 1.6 en 2015, qui a vraiment apporté plein de choses. Non, je dis des bêtises, c'est pas un 6, c'était... J'ai perdu mon truc. 2017, pardon, la 1.8, qui a apporté justement toutes les features d'HAProxy moderne, donc la gestion plus en process, mais en multithreading, les nouvelles API qui sont l'HAProxy Runtime API, et du coup plus tard l'HAProxy Dataplane API. Et du coup, en fait, toute la refonte vers la nouvelle version de HAProxy, qui est la 2.4 ou 2.5, je ne sais plus exactement. Je ne l'ai plus de tête. Donc, c'est la 2.4. Hein. Et du coup, l'implémentation HTTP2 et peut-être un jour HTTP3. Et voilà, donc. Plein de nouvelles features. Je ne sais pas si vous voulez en parler, vu que vous avez le détail de la timeline sous les yeux. Des choses que vous ont frappé, peut-être.
C'est une sacrée évolution hein, quand tu vois tu pars de, on va, même si tu pars de HAProxy 1.0, tu vois, tu défiles la timeline, c'est super impressionnant d'avoir l'effort de pousser toujours autant le soft sur plus de
sur 20 ans.
Sur 20 ans,
sur 20 ouais. Ans ouais. Sachant qu'on voit du coup l'évolution d'HAProxy, notamment entre 2010 et 2015, il y a eu beaucoup moins de grosses features. Et je me demande s'ils n'ont pas justement retravaillé un petit peu le moteur en interne et fait du close source pour pouvoir financer la boîte HAProxy et pouvoir continuer à subsister. Et je vous avoue que j'ai plus la réponse en tête de l'article. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Ce qui me fait penser du coup que récemment, en parlant de load balancer et de HAProxy, Google a eu un problème avec ses load balancers, ce qui a mis Snapchat et Spotify et d'autres dans la panade, ainsi que nous d'ailleurs de mémoire, parce qu'en fait il y a on envoie des données chez Datadog et il se trouve que Datadog ont des LB de chez Google, ce qui a fait sauter quelques flux de données de mémoire.
Certains de nos clients envoient de la donnée chez Datadog. Je préfère rassurer. On envoie pas la donnée de nos clients comme ça chez Datadog gratos.
Effectivement, ça n'avait pas venu à l'idée. Ils ont configuré pour que ça envoie de la donnée chez Datadog.
C'est quelque chose que tu as utilisé, toi, Mathieu, HAProxy ou...
Je l'ai utilisé de même que Nginx un petit peu au cours de ma carrière, etc. Et dernièrement, je l'ai plutôt utilisé plus en mode je regarde un peu ce que fait la concurrence, même si, enfin, niveau performance, je suis bon, très très loin derrière.
Après, par rapport à Autoroshi, tu veux dire ?
Ouais, par rapport à Autoroshi, en fait, oui, on travaille sur Autoroshi. C'est pas du tout le même scope, mais il y a des choses relativement intéressantes dans HAProxy. Et moi, je sais que la release qui m'avait vraiment frappé, c'était la version 2, en fait, où ils avaient vraiment mis en avant tout ce qui est API, les trucs dynamiques au niveau du storage SSL, etc. Mmh. Et ça devenait un peu le truc où je me suis dit, ah non, si j'avais eu ça quand je me suis décidé à créer Autoroshi, peut-être que j'aurais pas créé Autoroshi, quoi. En fait, c'était vraiment le genre de truc. Non, c'est un super produit, HAProxy, franchement. C'est vraiment cool.
Moi, je sais que c'est Dataplane API qui m'avait...
Ouais, carrément.
Qui est assez
ça, c'est cool. Ouais.
Pour ceux qui connaissent pas Dataplane API, c'est une petite API qui parle avec le socket d'HAProxy et qui vous permet de la reconfigurer à chaud, l'HAProxy. Et c'est vraiment très pratique. Pour le coup, vous pouvez récupérer la conf actuelle, faire un diff, rajouter des serveurs front-end, back-end, tout ce que vous voulez, et dire à Dataplane API, voici ta nouvelle conf, reload HAProxy, et il applique les mises à jour, et c'est plutôt ouf. J'avoue que c'est assez incroyable. Pour l'avoir utilisé, ça marche bien.
Ouais. T'as un support de MQTT, j'avais oublié ça, ouais.
Ouais. Oui, dans HTTP2.
J'avais oublié ça, tiens.
Avec HTTP2, ouais. C'est assez ouf.
HTTP2, WebSocket et MQTT Protocol 2021. OpenTracing.
Ah. Et oui, et Prometheus et... aussi, ils exportent. Ouais. On peut, vous pouvez loader leur, mal, le share object Prometheus, et du coup, sur la WebSocket de mémoire, vous pouvez exposer les. Vous pouvez demander les métriques.
Pas mal.
Ou non, ou vous pouvez les exposer directement via la conf sur un slash metrics. Je sais avoir configuré ça. Donc, ouais, non, c'était plutôt cool. Je sais pas si vous voulez parler de plus de choses dessus.
Je suis en train de regarder.
Anniversaire, bravo.
Oui, bravo.
Bon anniversaire.
Joyeux anniversaire. Ouais.
Et du coup, sur une transition complètement difficile.
Vas-y. tu l'as ou. Non, moi je l'ai pas.
J'ai pas de. Je comptais sur le fait que Pierre allait nous forecaster quelque chose là-dessus.
Non, pas mal.
Donc, apparemment, il y a des gens qui utilisent du machine learning pour faire.
De l'estimation de ressources de requêtes SQL.
De futures requêtes SQL, c'est ça ?
Ouais, en fait, c'est un blog de Twitter qui, du coup, déborde de données et qui explique en fait qu'ils ont des problématiques quand ils exécutent du SQL sur leur Terra et sur leur Terra de données. Notamment, ils ont trois problèmes. C'est que s'il y a des utilisateurs qui arrivent avec une query gigantesque, ils prennent toutes les ressources et avant que le système ait le temps de scale, ils arrivent à faire saturer le système. Le deuxième problème, c'est que les développeurs qui travaillent, ils ont pas forcément les ingénieurs data ont pas forcément la connaissance de l'impact d'une query SQL. Mm-hmm. Et troisième problème, c'est que quand tu travailles avec des environnements élastiques, le fait de pouvoir faire du forecast, donc pouvoir prévoir en fait quand est-ce que tu vas avoir des ressources, ça te permet d'avoir du capacity planning et de prévoir et d'avoir de la maintenance. Du coup, ils ont fait un papier de recherche sur du coup comment pouvoir prévoir les usages SQL. L'article est assez intéressant, notamment dans l'approche, c'est-à-dire que dans la plupart des papiers que j'ai parcourus, en fait, ce genre de système est entraîné en prenant les query plans générés par les moteurs. Et en fait, là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la logique complètement inverse, c'est qu'ils ont entraîné à partir des requêtes SQL, des SQL statements. Ils ont tout entraîné à partir de ça et avec les logs qu'ils avaient des vieilles requêtes. Donc en fait, c'est un système qui est complètement agnostique du moteur SQL ou du query plan ou de whatever. Et ils avaient 97% ils approchaient à 97% de l'estimation.
Donc, c'est plutôt intéressant. Tu veux dire qu'on va être capable de prédire leur facture AWS.
Alors, c'est la facture Google Cloud, mais oui.
Incroyable.
c'est ça. Et le développeur saura combien il paye.
Et ça, c'est beau.
Mais c'est un vrai problème. Hein. Quand t'es sur des plateformes multitenantes et que t'essayes de faire de l'allocution, enfin, de gérer tes ressources d'infrastructure en data, suffit que t'as 15 000 utilisateurs qui font des requêtes qui sont gigantesques parce qu'il a pas forcément la vision de l'impact d'une query comme ça, tu peux saturer un système super facilement.
Ça me rappelle une histoire que tu m'as racontée il y a pas si peu de temps. Sur une personne qui faisait une requête SQL qui faisait un full scan de mémoire et vous manquez un index ou c'est un article de blog
c'était un blog post c'était un blog post d'un gars qui expliquait les index en prenant une query une query déclenchée en full scan. En fait, ça t'apprenait à lire le explain en SQL et te dire là faudrait peut-être un index. On mettra le lien, il faudrait que je le retrouve.
Oui, c'est le nom de l'article, ça devait être quelque chose comme « Comment j'ai appris à utiliser les index pour 5 000 $ ?» Parce que les 5 000 $, c'est ce que ça lui a coûté.
C'était chez PlanetScale, d'ailleurs.
Ah, PlanetScale.
C'était chez PlanetScale, parce que du coup, justement, c'était un index qui n'était pas posé par défaut sur vitesse et qui était posé par défaut sur MySQL. Et du coup, quand il a migré... Ça s'est mal mis.
J'imagine. Ça me rappelle ce client qui avait un problème de, de requêtes à chaque fois qu'il lançait une nouvelle com et que les gens ouvraient leur application, ça plantait parce que, enfin bref, l'application plantait. Et on a fini par se rendre compte que les, je sais pas trop si c'est le au moment où ils ont migré chez nous ou quoi, mais en tout cas, aucune de leurs tables n'avait de clé primaire. Et donc, ils faisaient des requêtes, et en fait, du coup, il n'y avait pas de clé primaire, donc pas d'index. Et bon, je passe toute l'histoire, mais j'ai dit à ce client, genre, lance cette commande dans ton SQL, qui globalement, c'était un create index sur tel machin, et son application, qui ne fonctionnait pas depuis 2 mois, s'est mise à fonctionner nickel, sans aucun problème, du jour au lendemain. Juste parce que, bah, forcément, il y avait... Maintenant, il y avait un index sur son SQL, quoi.
C'est une des fonctionnalités de vitesse qui est vraiment sympa, c'est que tu peux faire de la déduplication de requêtes. Donc, si par exemple, t'as 4 requêtes en parallèle qui sont exactement la même requête SQL, en fait, il va pas la lancer 4 fois, il la lance une fois, et les 3 autres, en fait, ils vont récupérer le même résultat.
Ok,
donc, marrant. C'est cool, ça.
Ça, c'est super intéressant. Cool. Et ça, combiné avec le fait que t'as du pooling de connexion natif dans Vitesse, bah, du coup, tu n'as pas ces problèmes-là pénibles à gérer. Ça, c'est un gros, gros argument de Vitesse pour le coup. Au-delà du sharding et de la distribution, ils ont fait un énorme boulot en fait, sur la partie connexion, comment je simplifie ce travail-là.
C'est beau. Faudra qu'on regarde d'ailleurs, hein, si on veut proposer nous du Vitesse, faudra qu'on regarde la licence aussi, parce que si...
C'est du Apache 2. C'est SNCF, mais c'est Apache 2, je crois.
Ça marche.
On peut regarder ça tout de suite.
Je suis quasi sûr que c'est...
Ouais, c'est du Apache 2.
C'est Apache 2.
Ouais. Voilà.
Après, c'est pas. J'ai regardé en opérationnel, c'est pas.
C'est pas drôle.
C'est un système distribué. En fait, c'est une surcouche à MySQL. Donc, tu dois embarquer des MySQL et en démarrer à la volée. Enfin, tu vois, il y a un peu de boulot. Mais bon, ça rentrera bien.
Bon, démarrer des MySQL à la volée, c'est pas comme
Ça devrait le faire. C'est ça. Il y a un peu de boulot d'intégration parce que tu vois, c'est vraiment, faut imaginer que le MySQL dans Vitesse, c'est le storage layer en fait. Et t'as toute la partie au-dessus à schedule. Du coup.
Du coup, je sais plus trop. Vous en faites beaucoup du SQL chez Serly / Maïf? Parce que je sais que vous avez beaucoup d'Elasticsearch.
Et que d'ailleurs, tu stresses un petit peu parce que Arnaud est en ce moment en train de mettre
à
jour.
Tout à fait. Et j'ai une appli là qui est en train de tomber, redémarrer, etc. Je sens que c'est plus ou moins lié à ça, mais on verra ça après l'enregistrement du podcast.
C'est bien sûr une maintenance prévue et programmée.
Tout à fait. Il n'y a pas de souci.
On vous avait pas dit que le thème de l'épisode était venez débugger l'élastique de Maïf avec nous.
Ouais, c'est bien, j'ai le support avec moi et tout, c'est nickel.
Beaucoup de SQL ou plus du NoSQL?
Bah en fait, on a eu une période, comme tout le monde, on s'est lancé sur le NoSQL comme des enragés, etc. Et c'est vrai qu'on a tendance à vachement revenir sur du SQL, et notamment surtout du Postgre, en fait. Parce que franchement, c'est cool, quoi, ça marche super bien. Tout le monde sait faire du SQL.
Et parce que tu peux mettre un index dans ton fil de JSON.
Exactement. Et ça marche très bien quand même. Ouais. Non, ouais, j'ai l'impression quand même qu'on revient beaucoup là-dessus et c'est pas plus mal en fait. Et en plus, je vais parler dans la sphère JVM, après ailleurs, c'est autre chose, mais on a de plus en plus de drivers qui se veulent réactifs et tout, bon, avec les limitations qu'il y a quand même au niveau des protocoles de communication, des protocoles de base de données, mais on a de plus en plus de drivers actifs, etc., donc c'est plutôt cool. Ça marche vraiment bien.
PostgreSQL prend vraiment énormément en termes de marché. Maintenant, quand tu fais du spanner, tu as maintenant une terminaison, une terminaison PG. Et j'ai même vu Mongo, alors je sais pas si c'est là dans la version SaaS ou dans la version as a service ou dans la version open source, mais j'ai vu support SQL. Donc, j'ai pas testé, mais
Ah, puis même, t'as des trucs genre Cockroach aussi, je crois qu'ils font une terminaison
ouais, Cockroach, Postgre, ouais, des choses comme ça. Postgre, ouais.
C'est du. Il y a énormément là d'engouement autour de PG et de son protocole. Beaucoup plus que MySQL d'ailleurs.
Sachant que en parlant de PG et de Cockroach, si vous avez jamais vous avez l'occasion de déployer un Cockroach, ne serait-ce qu'avec la version dockerisée, vous allez voir qu'il y a une superbe UI pour administrer Cockroach qui est folle. Juste, je trouvais ça elle est magnifique.
Je sais pas ce que ça donne. Vous avez déjà fait du Cockroach en prod? Parce que moi, c'est quelque chose qui j'aimerais bien avoir un peu de retour là-dessus.
J'en ai benché un, moi. Alors, je suis très content de la partie opérationnelle et de la partie simplicité de déploiement. Donc, en version, je parle de version OSS. Donc, version OSS, tu prends, ça marche très bien, tu rajoutes des nœuds, ça scale, ça prend du trafic, ça split le truc, ça marche vachement bien. Par contre, et c'est là où on voit les limitations du système, en fait, Cockroach, c'est basé sur NTP pour les transactions. Et du coup, si tu as, si ton rate de transaction est trop élevé pour une seule table, et qu'en fait, tu approches de ta divergence NTP, tu vas avoir du restart. Donc, par exemple, tu as 3 millisecondes de différence de NTP, sur tes machines, ce qui est déjà peu, tu vois.
Oui.
Si t'as si t'as une transaction toutes les millisecondes, en fait, il va voir qu'il est dans la période de doute, et du coup, il restart la transaction. D'accord. Donc, en fait, si t'as très peu de contention sur une table, ou si t'as plein de tables, ça marche plutôt bien, Cockroach. Par contre, si tu veux te dire que tu veux avoir des millions d'écritures ou alors des index qui sont modifiés plein de fois en concurrent...
D'accord. Ok.
C'est limite.
C'est NTP, quoi.
Ouais, je veux. Et du coup, il y a un autre protocole que NTP qui fait du... c'est quoi? C'est PTP? Du temps beaucoup plus précis.
Ouais. Et
je sais qu'il y a Facebook, il y a quelques mois, qui a sorti une sorte de carte PCI open source pour faire du PTP avec une horloge radioactive et une connexion GPS. Ça coûte 1500 balles, tu mets ça dans ton data center et t'as du PTP de ouf.
Ah ouais? Ah, j'avais pas vu, tiens.
Et du coup, je me demandais si ça, combiné avec du Cockroach, on n'avait pas un spanner bien foutu.
Ça commence à faire cher la base de données, mais
Ouais, mais enfin, tu vois, après, si tu montes ton truc,
oui, complètement, oui, c'est vrai.
Après, Spanner, tu as ouais. Après, dans Spanner, c'est les serveurs NTP, et après, le réseau fait qu'ils peuvent se permettre de pouvoir répondre facilement aux serveurs NTP. T'as pas la carte à 1500 boules dans toutes les machines.
C'est pas dans toutes les machines, c'est en mets un par data center.
Ouais,
en fait.
Voilà.
Et du coup, après, tout le monde. Et du coup, 1500 balles, finalement, si c'est pour tout autre data center, même pour un cloud provider, j'imagine, c'est pas si.
C'est pas élevé en termes de prix, ouais. Quand tu regardes le prix de certains routeurs.
Après, tu peux.
C'est pas 1500 balles, quoi.
Quand je m'étais intéressé à ça, je me souviens avoir regardé pour Galileo, tu sais, le GPS, le GPS européen. Et je me souviens qu'il disait, oui, alors du coup, on a une précision. Alors le GPS, c'est le mètre, enfin, c'est dans les 4-6 mètres. Le Galileo, je dirais des bêtises, mais c'est vraiment bien mieux. Et du coup, on était dit, en fait, du coup, on pourrait synchroniser les NTP dessus. Et la semaine où je me souviens, j'ai regardé ça, ils avaient dit oui, alors du coup, on a trouvé un bug, du coup, on remonte d'une seconde dans le temps. C'était un peu dommage.
Dommage, ouais.
Mais après, c'est le tout début de Galileo, donc il y aura peut-être. Ce sera peut-être un peu plus stable.
En parlant de stabilité.
En parlant de hardware.
En parlant de hardware, c'est un lien par rapport à ce qu'on vient de discuter ou c'est un lien suivant que tu viens de rajouter, Florentin ?
Je n'ai rien rajouté du tout.
Ah, c'est pas toi qui viens de rajouter, mince.
C'est la
carte
Facebook.
Ah oui,
c'est la carte juste, de Facebook. Okay,
juste si ça intéresse des gens.
Moi, ça m'intéresse. Merci Mathieu.
J'étais en train justement d'aller chercher le lien de comment le mec a justement dépensé 5000$ dans Planescape pour apprendre comment les index fonctionnaient. Dans une DB. Et je vais le poser, ça, pour le coup, dans le résumé.
Mais donc, en parlant de matériel spécifique, je suis tombé récemment sur sur une vidéo YouTube, enfin sur un article qui parlait sur un blog motion, c'est dire, qui faisait un lien vers une vidéo YouTube. On est dans une certaine version de l'internet, hein. D'un type qui explique que donc le mec est gamer, etc. Et il explique comment il pone les autres grâce à son super clavier qui est en fait un vieux clavier PS2 avec le fameux port PS/2 là. Je sais pas si vous voyez.
Le truc rond là.
Ouais, le truc rond là. Celui où tu pouvais mettre ta souris et ton clavier. Et donc le type explique que lui, pour être meilleur sur les jeux, notamment ces jeux de tir et de trucs comme ça, pour avoir une meilleure réactivité sur les jeux, il utilise donc un vieux clavier PS2 des années 90 pour une raison très simple. C'est que le port PS2, il est branché directement au processeur. Alors que le port USB, il est branché à la carte, en gros à la carte mère. Et c'est deux façons différentes de discuter avec le processeur. C'est-à-dire que quand tu appuies sur une touche en USB, ça arrive sur ta carte USB, enfin sur la partie USB de ta carte. Et le processeur, de temps en temps, quand il a le temps, parce qu'en plus, si on n'a pas un processeur temps réel ou si on n'a pas ou si le processeur est donc très chargé à ce moment-là, il va pas forcément le faire. Tout le temps, au même moment, etc. Mais en gros, régulièrement, le processeur pôle l'USB pour savoir s'il y a de la nouvelle donnée. Ce qui veut dire que si, par exemple, tu dois aller vers la droite, tu bourrines ta touche pour aller vers la droite, donc la touche D, si je dis pas de bêtises. tu bourrines ta touche D pour aller vers la droite. Et en USB, si tu appuies, alors je ne sais pas exactement combien c'est de millisecondes, j'ai oublié, mais si tu appuies, je ne sais pas, trois fois sur ta touche vers la droite dans la même, dans le même time de poll, ben en fait, ça va compter que pour une seule fois. C'est-à-dire que quand le processeur va aller regarder ce qu'il y a, ben il voit qu'il y a eu un appui sur cette touche-là et il va le prendre. Alors que les claviers PS2, donc à l'ancienne, donc c'est vraiment du port, c'est de l'input dans le processeur. Et comme les processeurs, alors là, je vous invite à aller voir la superbe conférence de, j'ai fait une conf avec lui, mais j'ai oublié son nom, à Devox France, qui parle des processeurs et de l'évolution du processeur.
Michael Ortiz ou un truc comme ça.
Ouais, exactement. Samuel Ortiz. On pourra vous mettre le lien aussi vers sa conférence qui explique un peu comment fonctionnent les processeurs, etc. En gros, les processeurs actuels, ils sont censés être compatibles avec des programmes compilés pour les processeurs, donc je parle des x86, hein, donc AMD et Intel en gros. Oui, je suis en train de faire une grosse digression sur mon... non, mais ça permet d'expliquer, vous comprenez. Mais bref, en gros, les nouveaux processeurs Intel, on peut lancer des systèmes qui ont été compilés pour des processeurs Intel des années 80. En gros. Et là, c'est la même façon. Donc, tout ce qu'on trouve dans les processeurs actuels, c'est les mêmes fonctionnalités que dans les anciens. Et notamment, si t'as encore un port PS2 sur ton PC, il va être compris en input dans le processeur direct. C'est-à-dire que quand tu vas cliquer, à chaque fois que tu vas cliquer sur un bouton, ça va faire un interrupt sur le processeur. Et en fait, tu vas être prioritaire sur tout le reste.
C'est-à-dire
que dans ton jeu de tir, le moment où tu as besoin d'aller très très rapidement à droite, de te baisser ou de faire je sais pas combien de sauts ou je ne sais quoi, ça va être pris en compte directement dans ton processeur et donc ça sera plus performant dans le jeu. Et donc la vidéo, le type présente son clavier de gamer qui est effectivement le vieux clavier gris là des années 90. Hein. Alors on passe sur le côté, les touches peut-être un peu dures à appuyer, mais quoi qu'il le maintient assez bien nettoyé. Mais du coup, avec le port PS2, il est beaucoup plus rapide que les claviers USB.
Et voilà. Et donc, ça se fait encore sur les cartes mères, les ports PS2
Sur les tours, potentiellement, faut trouver la bonne tour, mais potentiellement, souvent elles sont bouchées, tu sais, parce qu'ils disent. On va économiser sur le petit...
C'est comme les lecteurs CD des serveurs, quoi.
Ouais, c'est ça. mais donc, voilà. Et donc, moi, je trouvais ça marrant, effectivement.
C'est excellent.
Le type finit son article. Bon, l'article fait 4 lignes avec, au milieu, la vidéo YouTube. Mais comme donc la vidéo le conclut et l'article aussi, pour une fois qu'un vieux truc d'il y a 20 ans est finalement plus performant que les dernières évolutions. Après, voilà, l'USB, ça vous apporte pas mal de choses. Le fait de pouvoir rebrancher un autre clavier à votre premier clavier, enfin, enfin le fait de pouvoir saisir, c'est serial bus, quoi. Donc, l'idée, c'est que tu puisses brancher beaucoup plus de choses, alors qu'en PS2, tu peux brancher qu'un seul truc sur ce port-là et c'est tout. Donc, il y a des évolutions, mais en termes de performance, notamment sur des cas de, bon, en l'occurrence, de jeu, t'es beaucoup plus performant avec un clavier PS2. Voilà. Donc là, tout le monde va se jeter chez les antiquaires et ils vont tous vendre leur clavier PS2 qui traîne. J'en ai deux ou trois à vendre s'il y en a que ça intéresse. On mettra le lien du bon coin.
Est-ce que pendant qu'on y est, on ne vendrait pas les souris à billes? Parce que celles-là sont aussi branchées avec le même type de port.
Ouais, c'est du PS2 aussi. Ouais. Mmh.
Ce qui fait et que vous serez meilleur avec un vieux matos. Ouais.
C'est clair. Voilà, je viens de faire remonter le cours des vieux.
Voilà, des vieux matos.
Du vieux matos.
Excellent.
Et du coup, j'ai retrouvé le nom de ta conf, c'est Initiation à la concrète à la virtualisation avec Samuel.
Alors, celle-là, on l'a faite avec Samuel, mais si tu cherches, je te donne la tâche de chercher. Et Samuel Ortiz, au même Devox, a fait un autre truc sur le processus de boot du processeur x86, qui est incroyable. Là, bon, d'ailleurs, pendant sa conf, il m'a taclé sur un truc que j'avais dit où j'hésitais, sur la conf d'avant qu'on avait faite ensemble. Mais voilà.
C'est
ah là là.
Pas mal.
Tout ça pour dire que comme le vieux c'est bien, mais parfois faut pas garder les choses vieilles trop longtemps. Et pour ça, il me semble que Pierre a un outil à nous proposer pour.
Je suis resté pas mal du tout, vraiment là.
Tu l'as pas vu,
ah non, j'étais pas prêt. Hein. ouais, donc tout de cet épisode, c'est un projet open source par Apple. C'est assez rare qui permet de faire de l'analyse des logs de garbage collection en utilisant Jupyter, donc le tool d'analyse web.
De machine learning, si j'ai pas
de machine learning, enfin, de où tu peux faire du Python dans ton navigateur et tout. Du coup, c'est un notebook Jupyter où en fait tu peux directement loader tes fichiers qui correspondent à tes logs de GC. Et je l'ai testé rapidement, c'est pas mal parce qu'en fait il génère plein de graphes et il fait le lien en fait avec les différents les allocs. Les latences, il fait la corrélation avec ce qu'on appelle les stop the world, donc quand la JVM s'arrête et nettoie. C'est assez cool d'avoir un outil web parce que la plupart de ces trucs-là, quand on commence à vouloir essayer de tuner ça, on se retrouve à lire des fichiers de log visuellement, c'est pas ouf. Et il y a énormément d'outils un peu en mode client lourd sur Windows qui sont pas forcément à jour par rapport à de nouveaux garbage collectors. Donc celui-là, il supporte J1, Shenandoah et ZGC. Même s'il y a certains edge cases qui sont connus par la communauté. Et comme c'est un notebook, vous pouvez le partager et vous pouvez le modifier très facilement. Donc j'ai trouvé là le truc plutôt chouette pour éviter de se taper le client lourd.
Surtout que c'est un notebook et du coup tu peux le faire tourner sur du Linux, du Mac et du Windows.
C'est
ça. Gros intérêt du truc.
Puis en même temps, quand tu fais de l'analyse de log, c'est vraiment, t'as un vrai boulot d'analyse, tu vois. Merci. Et du coup, utiliser un outil d'analyse, pas du tout. Pour ça, je trouve ça. L'approche est sympa.
C'est un besoin que vous avez, vous, chez. Enfin, vous utilisez un peu Jupyter, ce genre de choses, Mathieu, chez Serly ou Maïf?
Alors, pas spécialement, nous, Serly. Après, je pense qu'il y a eu des munitions sur du machine learning ou des choses comme ça, où il y a forcément eu ce genre de choses, mais pas forcément dans ce que j'ai fait moi. Après, je sais que, justement, Maïf, au niveau de ses projets sur la data, c'est notamment, et il me semble que c'est des Jupyter Notebook qui sont utilisés, qu'on peut utiliser, que ce soit Melusine ou Chapache, directement dans des Jupyter Notebook. Donc, ouais, c'est quelque chose qui est utilisé pour ça en tout cas. Mais moi personnellement, j'ai rarement eu affaire à ce genre de choses. Mais là, en l'occurrence, ça peut être assez intéressant. Ça vaudrait le coup d'essayer, franchement.
Je sais pas si t'as vraiment Je sais pas si t'as vraiment envie d'aller tuner du GC, mais oui.
Malheureusement, parfois... c'est arrivé dans un, ouais, dans un coin Dark Magic.
Malheureusement, parfois, il faut, quoi.
Ah, c'est tu, peux, ça, ouais. Tu peux aussi choisir, parce que maintenant, surtout quand t'es sur la JVM, t'as 25 GC différents.
Ouais, c'est ça, ouais. Et puis il faut tous connaître les options différentes, etc. C'est toujours un vrai plaisir.
Les options de G1 quand on bossait sur, sur les JVM à OVH, notamment des belles JVM avec 500 G de HIP, t'arrives et puis t'as dans la Java doc, ils arrivent, ils font bon. Alors, du coup, ça, tu vois ce paramètre-là, si tu le sets à cette valeur, il faut que t'augmentes celui-là de beaucoup. Sans te préciser plus, tu vois. De beaucoup.
Doc officiel Oracle, hein, on précise.
Oui, doc officiel Oracle. Et quelques lignes plus tard, ou paragraphes plus tard, tu as, dans le même style, au doigt mouillé, ça serait bien de mettre plus. Et les mecs sont montés là, ils font, ouais, alors du coup, je vais aller regarder sur Internet, et à la fin, tu commences à te faire des formules mathématiques cheloues en fonction du nombre de processeurs, de ta RAM que tu as à côté et tout, et là, tu fais, bon, je tente un truc, je lance la JVM, est-ce que ça plante? Non. Ma formule n'est pas si loin.
Il y a un drôle. Côté un peu dark magique à ces trucs-là. Du coup, avoir un tool qui permet de visualiser tes essais et de pouvoir recharger et te dire, bah voilà, je prends l'essai d'il y a une heure, c'est quand même pratique. Hein.
Exactement, ouais.
Même rien pour faire le rapport, tu vois. Tu dis, bah voilà, j'ai testé tout ça. Qui veut prendre la suite de ce projet-là? là.
Très bien. Nous arrivons vers la fin de cet épisode, sauf si vous avez encore un petit mot à dire.
Mot.
Très bien. Alors, je vais bien sûr procéder sous contrôle d'huissier, comme on dit. À la sélection de la musique, donc nous avons des musiques proposées par nous quatre. Donc j'ai le dé. Si je fais entre 1 et 5, c'est Florent qui. Florentin d'ailleurs, pourquoi j'ai écrit Florent.
Je
ne
sais pas.
C'est Florentin.
Comme les jeux vidéo chez moi où tu coupes à 8 caractères et tu fais des choix entre Flo ou Florentin. Je ne peux pas aller jusqu'à 1, non, c'était trop dur, 9 caractères.
Je reprends donc entre 1 et 5 Florentin, entre 6 et 10 Julien, moi-même, entre 11 et 15 Pierre et entre 16 et 20 Mathieu. Attention. 16, et bah c'est Mathieu.
Allez,
tu auras eu droit deux fois à sa musique. C'est là que tu peux nous parler vraiment de... Donc tu parles de Bleed, c'est ça?
De Bleed, ouais, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Meshuga. Donc Meshuga, c'est un terme yiddish pour dire folie. Donc ça en dit long sur le type de musique qu'on va pouvoir entendre. En gros, c'est du métal, on va dire, très technique et surtout orienté sur du polyrythme. Donc on a des instruments qui jouent des rythmes différents et tout. Bon, c'est un petit peu violent, mais c'est un truc que j'aime bien. Et notamment quand je code, j'aime bien mettre ça. Ça me détend quand il y a des choses qui me... désolé pour les auditeurs. Ça peut être un peu violent, mais c'est... Moi, j'aime bien.
Voilà. Il faut que ça détend Mathieu.
Ça détend les voisins. Par contre, le clip est assez... est pas très, très détendant.
Non, c'est un peu malsain. Je crois que ça parle d'un type qui fait une hémorragie du cerveau, quelque chose comme ça. Bon,
très
chose,
bien. Tout à avec fait... des cafards qui se tordent là au sol.
Ce qu'il faut savoir, c'est que cette chanson, en gros, quand le groupe l'a inventée et l'a enregistrée en studio, bon, ils ont fait le truc en mode studio, c'est-à-dire un petit morceau, etc., etc. Puis un jour, ils se sont dit, bon, faut le jouer live. Et ils ont mis 6 mois à réussir à la jouer live, celle-là, parce qu'elle est tellement compliquée. Le batteur a dû réapprendre à jouer de la batterie différemment pour y arriver, etc. Donc, c'est le genre de truc un peu sympa. Et en gros, pareil, à la guitare. Donc, je joue de la guitare, ça se voit un petit peu. C'est pas forcément compliqué en tant que tel, mais à tenir sur la distance et proprement, c'est une horreur. Donc,
ouais, surtout avec tous les autres qui font des rythmes différents, etc.
Exactement, c'est de bonne joyeuseté, qu'on va dire.
Très bien.
Voilà.
Est-ce que vous avez un mot de la fin?
Merci Mathieu.
Merci de m'avoir invité.
Très bien, effectivement. Merci beaucoup Mathieu de nous avoir rejoint, surtout prévenu 3 heures à l'avance. Alors, c'est pas ma faute, c'est la faute de Microsoft. Hein.
Oh, allez,
attendez, parce que
c'est vrai,
c'est complètement vrai. Je suis parti dans les spams parce que j'ai envoyé mon mail hier. Bon, ça restait quand même tard, hein, qu'on se le dise. Mais je suis parti dans les spams et le batch se faisant toutes les nuits, Mathieu n'a reçu mon mail, le batch de sortie des spams plus ou moins, se faisant toutes les nuits, Mathieu n'a reçu mon mail que ce matin.
Ah, c'est ça.
Et donc voilà, mais il a quand même accepté, et à notre grande joie.
Oui.
Donc, merci beaucoup.
Merci de m'avoir invité.
Ça nous a fait plaisir. Et merci beaucoup à toutes et à tous qui nous écoutaient. Et à bientôt. Et écoutez bien la super musique et allez voir le clip. allez le voir, pas entre 23h et 1h du mat. Si vous voulez bien dormir. Mais. Ça vaut quand même le détour d'aller voir le clip. Sinon, vous pouvez tenter de mettre le clip et la musique de l'épisode précédent.
Ah, c'est une bonne idée.
Il y a peut-être quelque chose à jouer là-dessus. Sur ce, au revoir tout le monde.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.